Normandie pour la paix,
le podcast.
Nicolas Therrien de la radio Sweet FM avec Nicolas Denoyel de West France. Nicolas, bonjour.
Bonjour.
De Nicolas pour interviewer Mister Geopolitics. Son credo, vulgariser la géopolitique, nous faire comprendre donc les enjeux d'un monde complexe et nous ouvrir aussi vers une meilleure compréhension du monde. C'est ce qu'on va évoquer avec vous. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Avec plaisir. Donc c'est sur YouTube que vous avez percé 210 000 abonnés, je crois, aujourd'hui. Une importante présence aussi sur les réseaux sociaux. C'est quelque part faire sortir la géopolitique des salles de fac, des livres un peu austères aussi parfois.
À la toute base, c'est avant tout un désir personnel de compréhension du monde qui est une sorte de moteur qui s'est allumé pendant mes études et qui m'a vraiment consumé. J'avais ce besoin de compréhension, mais je ne me voyais pas faire cette démarche de comprendre le monde en allant sur le terrain et en lisant des bouquins, en rencontrant des experts, sans l'expliquer derrière à mon tour, parce que j'avais vraiment cette fibre finalement un peu de vulgarisation. Et c'est comme ça que c'est né. C'est à la fois ce désir de partager, mais le désir aussi de le comprendre avant tout.
Voilà. Et par le biais donc des réseaux sociaux en l'occurrence, ça c'est un aspect très important parce que finalement votre auditoire est assez jeune.
Exactement, alors je touche un public qui va du collège jusqu'aux lycéens qui ont pris l'option géopolitique, jeunes étudiants qui sont dans plein de domaines différents, journalisme, humanitaire, relations internationales et jeunes travailleurs par la suite.
Et justement, vous m'aviez expliqué que vous êtes arrivé au bon moment sur YouTube avec des références comme Nota Bene. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, c'est quoi le bon moment sur YouTube?
Je dirais pas que je suis arrivé au bon moment dans le sens où j'ai pris cette initiative de me lancer sur Internet au moment où YouTube cartonnait et j'avais une appétence pour la vidéo. Aussi bien, ça aurait été une autre plateforme qui faisait pas de la vidéo à ce moment-là, je sais pas si je me serais lancé de cette manière-là et tout, donc on va dire que c'est l'adéquation du moment où je voulais me lancer, de la plateforme en l'occurrence vidéo qui fonctionnait bien à l'époque. Il commençait à y avoir un tout début d'embryon de business model qui se dessinait et surtout peu de gens à ce moment-là, du moins dans la géopolitique, il y avait encore peu de monde, même s'il y avait bien évidemment plein d'autres références qui existaient dans les médias traditionnels, des super émissions comme Le Dessous des Cartes par exemple, mais sur YouTube il y avait encore peu de choses.
La ligne éditoriale de votre chaîne, question de journaliste en l'occurrence, quelle est-elle?
Alors, je me vois vraiment comme une sorte de c'est pas sorcier de la géopolitique. C'est-à-dire que mon objectif, c'est pas de parler en temps réel de ce qui se passe. Il se passe ça en Ukraine, le lendemain je vous le raconte. C'est plutôt de faire des gros dossiers où je vais aller essayer d'expliquer une sorte de notion intemporelle pour que les gens puissent par la suite mieux décrypter l'actualité. C'est-à-dire qu'un sujet sur le narcotrafic, je vais pas forcément surfer sur une actualité qui vient de se passer, mais ça va être une compréhension globale du narcotrafic. Quels sont tous les rouages qu'il y a derrière? Pareil pour les sujets autour des conflits. Autour là, actuellement, je travaille sur la logistique militaire. Donc je prends exactement, effectivement, des exemples de ce qui se passe actuellement en Ukraine, que chaque camp essaye de taper la logistique du voisin. Mais l'objectif final étant d'avoir une compréhension globale et que, éventuellement, malheureusement, s'il se passe quelque chose à Taïwan, entre la Chine et Taïwan plus tard, ils puissent avoir cette compréhension de la logistique. Que ce soit un peu intemporel.
Il y a ce côté pédagogique qui est effectivement très intéressant dans vos vidéos, mais il y a aussi la partie terrain et journalistique. Vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes venu à aller sur le terrain et pourquoi c'est important pour vous ce terrain?
Premièrement, c'était un besoin personnel de renouer un peu avec ce que j'avais vécu pendant mes études. Le fait de se confronter à la réalité, on prend des baffes en permanence, c'est-à-dire que lire un bouquin sur le narcotrafic, regarder une série sur Pablo Escobar versus aller dans un cartel, rencontrer les chefs d'un cartel, voir la réalité de l'extrême pauvreté des agriculteurs qui sont embrigadés là-dedans et qui sont malheureusement contraints de le faire, de voir toutes ces réalités-là, on n'en parle pas pareil. Et donc quand on est vulgarisateur, il faut comprendre si je répète entre guillemets des mots un peu austères que j'ai lus dans un bouquin, même s'il y en a qui sont très très bien faits, je touche pas les gens de la même manière. Et donc du coup, le fait d'aller sur le terrain, c'est à la fois moi, je comprends mieux ces réalités-là, je me fais aussi plaisir personnellement, parce que c'est un vrai plaisir que d'être sur le terrain, et surtout je comprends mieux certains aspects, je peux mieux les vulgariser par la suite. Typiquement, je reprends l'exemple du narcotrafic, mais l'effet cliquet, qui est un phénomène qui fait que les gens qui rentrent dans ces organisations ont du mal à s'en sortir, c'est une machine qui broie malheureusement, qui attrape le doigt, puis la main, puis le bras, et ces gens-là finissent par très rarement être capable d'en sortir. Ça, il faut le voir, il faut voir le désespoir, il faut voir le fatalisme, il faut comprendre les jeunes qui disaient bah, « moi je rêvais d'être architecte, mais bon c'est la vie ». Une forme de fatalisme qui explique aussi le rapport à la religion, qui explique plein de choses. Et toutes ces réalités-là, en fait, on les comprend mieux. Mais de même, pareil, un autre sujet sur le porte-avions et sur la dissuasion nucléaire, de rencontrer le fameux Pacha, donc le grand chef qui chapeaute tout le groupe aéronaval, c'est-à-dire le porte-avions plus les autres navires qui le protègent, de comprendre cette responsabilité qu'il a, que s'il appuie sur un bouton, il y a un missile nucléaire qui part, être à ce niveau-là et comprendre en fait à la fois la réalité du petit agriculteur perdu au milieu de la Sierra au Mexique qui travaille pour des cartels versus une diplomate ou versus un pacha ou versus voilà. C'est être à tous ces niveaux-là et comprendre toutes les implications, c'est ça qui est passionnant.
Vous êtes autodidacte, vous avez vos entrées justement. Bon, on imagine que pour aller interroger un tueur à gages, faut certainement un fixeur, faut certainement être guidé, avoir accès au porte-avions Charles de Gaulle, faut certainement avoir ses entrées aussi. Comment ça se passe, comment ça s'organise pour vous?
Il y a un vrai côté autodidacte et je pense que ça a été une des clés aussi de ma réussite, c'est-à-dire que je me sentais perpétuellement pas légitime, ce qui est un super moteur, ce qui peut aussi bouffer les créateurs de l'intérieur, mais qui peut aussi être un super moteur du « il faut que je me forme en permanence sur le graphisme, sur la vidéo, sur le son, sur l'image, sur l'écriture, sur ma déontologie journalistique ». Et donc du coup, ça m'a poussé à vraiment travailler en permanence, en me formant et tout. Donc vraiment autodidacte à presque 100%, j'ai envie de dire. Et les entrées, on va dire que les réseaux sociaux ont changé beaucoup de choses, parce qu'à partir du moment où on a une audience qui nous suit, et que notre travail est visible, il y a des gens qui peuvent découvrir votre chaîne, regarder ce que vous faites et se dire « Ok, ce gars-là, il a 25 ans, parce qu'à l'époque c'était l'âge que j'avais, je manquais encore de maturité sur certains sujets géopolitiques, je manquais de profondeur bien évidemment, mais les gens je pense se rendaient compte de la volonté de vulgarisation qu'il y avait derrière, et je pense que du coup c'est comme ça que j'ai eu des entrées qui ont été faites, parce qu'ils voyaient le résultat final de ce que je produisais et ils voyaient aussi l'audience qui était derrière, et donc c'est vrai que ça ouvre des portes, et l'armée française a été une des premières à me les ouvrir. C'est moi qui ai fait la demande au début pour pouvoir faire des reportages, et c'est vrai que j'ai un peu surfait dessus parce que par la suite j'ai eu d'autres propositions et à chaque fois c'était l'occasion pour moi typiquement d'aller en Guyane faire un sujet sur la protection des lancements de fusées, parce qu'à chaque fois qu'une fusée, enfin un lanceur envoie un satellite dans l'espace, il y a tout un protocole militaire pour sécuriser ce lancement, et typiquement de voir ça sur le terrain, ça me permet d'être un prétexte pour dézoomer et mieux comprendre les enjeux géopolitiques autour du spatial, de partir sur le porte-avions, ça me permet de mieux dézoomer pour mieux comprendre la dissuasion nucléaire entre les États, de partir quelque part en Arctique, ça me permet de mieux expliquer les enjeux environnementaux dans le monde.
Sur les personnes qui vous suivent, je crois que c'est 70% de 15-35.
Toutes les plateformes n'ont pas exactement les mêmes audiences. YouTube, qui est mon cœur traditionnel de cible, j'ai 70% des gens qui me suivent qui ont entre 18 et 35 ans. TikTok, un peu plus jeune, et Instagram un peu plus varié, mais globalement, voilà, ça reste globalement cette sphère-là du collégien jusqu'au trentenaire qui s'intéresse aux thématiques assez généralistes sur le monde.
Sur quoi vous travaillez en ce moment
Donc j'ai une série sur la logistique militaire, parce qu'en fait quand on regarde les news en Ukraine et en Russie, sans s'en rendre compte, chaque jour il se passe des choses qui ont à voir avec la logistique. Chaque pays essaye d'étouffer un peu la logistique de l'autre pour pouvoir prendre l'ascendant. Donc je voulais vraiment voir ça sur le terrain. J'ai un autre sujet actuellement, une grosse série sur la puissance. Qu'est-ce qui fait la puissance? Donc le mot peut paraître très abstrait, mais quand on décortique cette notion-là, on rentre dans le cœur de la géopolitique, vraiment de pourquoi certains pays ont envie d'être puissants, qu'est-ce que ça signifie être puissant, et quelles sont les différentes formes de puissance, parce qu'il y a des pays qui sont puissants économiquement, des pays qui sont puissants sur le plan diplomatique, d'autres sur le plan militaire. Avec l'émergence de la Chine, il y a beaucoup de choses à dire dessus, donc voilà, c'est les deux gros sujets sur lesquels je travaille actuellement.
Dernière question, Mister Géopolitique, ce thème de la résistance, hein, là, ici, sur ce forum Normandie pour la paix, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce mot résistance?
Alors ça fait écho à beaucoup d'actualités. Moi personnellement, ça me fait écho à une thématique qui m'est très chère sur les populations autochtones qui sont dans une forme de résistance pour perpétuer leur mode de vie. Et on parle de plus en plus des enjeux environnementaux. Il y a typiquement l'ONU qui propose de de transformer 30% du territoire mondial en réserve naturelle, voilà, c'est un projet. Sur le papier, ça peut être extrêmement bienveillant et très vertueux, mais il y a aussi des limites à ce projet-là, et notamment le fait que ça exclut des populations autochtones qui sont pourtant les meilleures personnes pour gérer durablement ces territoires. Donc moi, ça fait écho à des personnes que j'ai pu rencontrer sur le terrain, des populations Wayana, des Pygmées en RDC, qui justement dédient leur vie à protéger leur territoire et leur mode de vie qui leur est cher et qui est très bénéfique pour un monde durable.
Merci beaucoup, Mr. Géopolitics, d'avoir fait un petit détour par notre micro. Merci également Nicolas Deneuil de West France d'avoir participé.